Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Sophie Tussaud.
Sur ce matelas se trouve de l'ADN d'Estelle Mouzin. Avec les aveux de Monique Olivier, on a confirmation sûre et certaine de la culpabilité de Michel Fourniret. En tout cas, c'est ce que je pense.
17 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, l'ADN de la fillette a été retrouvé dans la maison de la sœur de Michel Fourniret. Une découverte après que la femme du tueur en série est passée aux aveux. Tous les collégiens et lycéens vont devoir porter un masque dès la rentrée des classes. Cela représente un sacré budget pour les parents. La ministre de l'Éducation a tenu à rassurer les familles les plus modestes. Elles pourront en recevoir gratuitement.
En tout état de cause, s'il y avait vraiment des familles en grande difficulté, alors nous sommes en situation de fournir des masques aux élèves qui en ont le plus besoin.
L'état de santé d'Alexei Navalny est désormais stable. Les médecins russes ne s'opposent plus au transfert de l'opposant en Allemagne. 82 suicides en prison depuis le début de l'année. C'est trop, affirme Éric Dupond-Moretti, qui lance une mission d'inspection pour renforcer la prévention. À la reprise de la Ligue 1 ce soir, un début de saison pas comme les autres en raison du Covid, c'est Bordeaux-Nantes qui a ouvert le bal. Le mois d'août touche à sa fin, mais les vacanciers n'ont pas dit leur dernier mot. Nombreux sont ceux qui profitent de la fin du mois pour partir et les motivations sont diverses.
Je l'ai fait sur un coup de tête en disant vaut mieux profiter maintenant de sa famille, on ne peut pas savoir comment ça va se passer après.
À la météo, ça va se rafraîchir, nous dira Anissa. Et puis également dans votre journal de la nuit, vos deux rendez-vous de l'été, les conseils de lecture de Stéphane Place, la bonne idée de François Claus, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonsoir à tous. Sans doute un dénouement dans l'affaire Estelle Mouzin. Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret, est passée aux aveux. Interrogée depuis mardi par un juge, la femme du tueur en série a affirmé que son mari avait bien enlevé et tué la petite fille en janvier 2003. À la suite de ses aveux, l'ADN d'Estelle a été retrouvé sur un matelas saisi dans la maison de la sœur de Michel Fourniret à Ville-sur-Lume, dans les Ardennes. Une découverte capitale dans cette enquête, Guillaume Bier.
Oui, c'est une information capitale. C'est la toute première fois depuis 17 ans que des enquêteurs trouvent une trace d'Estelle Mouzin depuis sa disparition le 9 janvier 2003. Aucun indice aussi probant n'a été découvert. Ce matelas qui contient l'ADN partiel de la fillette, ça fait plus de 15 ans qu'il est sous scellé entre les mains de la justice. Mais à l'époque, les techniques d'analyse n'étaient pas assez pointues pour aboutir à ce résultat. C'est récemment que ce matelas a été de nouveau analysé, explique Richard Delgenès, l'avocat de Monique Olivier.
La juge d'instruction a pu obtenir, dans le cadre des scellés, des expertises ADN, et notamment sur un matelas qui avait été retrouvé à Ville-sur-Lume. Et sur ce matelas se trouve de l'ADN d'Estelle Mouzin, un ADN partiel à deux endroits différents. Ce qui signifie que Estelle Mouzin a été sur ce matelas-là, qu'on a son ADN, et qu'avec les aveux de Monique Olivier, on a confirmation sûre et certaine que de la culpabilité de Michel Fourniret. En tout cas, c'est ce que je pense.
C'est donc à Ville-sur-Lume, dans les Ardennes, dans la maison de sa sœur, à 200 km du lieu de l'enlèvement, que le tueur en série aurait séquestré, violé et étranglé Estelle Mouzin. Voilà ce qu'a révélé son ex-femme Monique Olivier, désormais mise en examen pour complicité. Mais il reste encore à localiser l'endroit où se trouve le corps de la fillette. C'est notamment cette question qui sera au cœur du nouvel interrogatoire de Michel Fourniret prévu la semaine prochaine.
Oui, Guillaume Bied du service police-justice d'Europe 1. Retrouver le corps d'Estelle Mouzin, c'est bien sûr ce qu'attend sa famille. Didier Seban est l'un des avocats d'Éric Mouzin, le papa d'Estelle.
Monique Olivier savait, mais nous savions qu'elle savait, puisqu'au fond, à chaque fois, soit elle a participé physiquement au fait et même donné le courage nécessaire à Michel Fourniret de passer à l'acte, soit systématiquement il lui racontait. Donc nous savions qu'elle ne pouvait que savoir ce qui était arrivé à Estelle. Ça fait tellement d'années que nous demandons à la justice, à la police d'enquêter sur Michel Fourniret et Monique Olivier qu'on a l'impression qu'on aurait pu donner une réponse aux familles beaucoup plus tôt. Il a fallu qu'on change de juge, qu'on change d'enquêteur pour qu'enfin cette piste soit sérieusement enquêtée. Et puis un souhait, et ce souhait c'est évidemment celui qu'on puisse retrouver rapidement le corps d'Estelle pour que la famille puisse lui donner une sépulture et qu'on puisse dire que cette enquête tellement importante et puis qui a tellement ému les Français se termine.
Maître Didier Seban, l'un des avocats du père d'Estelle Mouzin. Et après ses aveux, Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret, a été mise en examen pour complicité dans cette enquête. Des tags sur le centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane, village martyr de la Seconde Guerre mondiale. Des actes dénoncés par le Premier ministre. Jean Castex assure que tout est mis en œuvre pour que les auteurs de ces actes en répondent devant la justice. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque des inscriptions négationniste et parle de crachat sur la mémoire des martyrs. Autre grand titre de l'actualité, le virus circule très activement en France. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a de nouveau tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui. Près de 4600 nouveaux cas de contamination ont été détectés ces dernières 24 heures. Pour limiter la propagation du virus, Jean-Michel Blanquer a annoncé hier que le port du masque serait systématique dans les collèges et lycées pour les élèves et les professeurs. En visite dans une école dans l'Oise aujourd'hui, le ministre de l'Éducation a toutefois voulu rassurer les familles les plus modestes. Elles pourraient bénéficier de la gratuité pour les masques, Victor Delande.
Oui, car le ministre a probablement entendu les nombreuses critiques depuis hier soir sur cette petite phrase. En visite ce matin dans une école de l'Oise, Jean-Michel Blanquer a d'abord précisé que l'allocation de rentrée scolaire pour les foyers les plus modestes avait été majorée de 100 euros cette année. Il en a profité pour parler des masques pour les familles les plus démunies.
On a augmenté de 100 euros l'allocation de rentrée scolaire. Et c'est évidemment pour aider l'ensemble des familles de France, toutes, puisque 100 euros de plus par enfant, c'est quand même une somme très importante, dans l'achat de fournitures, éventuellement l'achat de masques. En tout état de cause, s'il y avait vraiment des familles en grande difficulté, alors nous sommes en situation de fournir des masques aux élèves qui en ont le plus besoin.
Ce seront les services de l'État qui décideront au cas par cas de fournir des lots de masques. Jean-Michel Blanquer a estimé par ailleurs que l'habitude de porter le masque doit être prise, y compris par les adolescents, et qu'il est normal d'avoir cela comme on a des vêtements. Et d'ajouter, si vous avez un masque et que vous le lavez régulièrement, ce n'est pas un coût gigantesque. Sur la même ligne, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a recommandé pour la première fois aujourd'hui le port du masque grand public, ces masques donc en tissu, moins coûteux et qui sont suffisamment protecteurs, selon le ministre.
Victor Delande. Et pour préparer cette rentrée, Emmanuel Macron a reçu Jean Castex aujourd'hui au fort de Brégançon. Pas de déclaration à l'issue de leur réunion, mais Emmanuel Macron a tweeté que la feuille de route était claire, surmonter la crise. Le président et le Premier ministre qui se retrouveront mardi pour le Conseil des ministres à l'Élysée, un conseil au cours duquel sera présenté le plan de relance de 100 milliards d'euros qui doit permettre à l'économie française de se redresser sur 2 ans. La situation économique inquiète beaucoup les Français qui se réfugient dans l'épargne. Et dans ce contexte, le livret A a le vent en poupe. Le mois dernier, il y a eu 1,850 milliards d'euros de déposés sur les comptes. Écoutez l'analyse de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.
Avec 1,85 milliards d'euros de plus sur le livret A au mois de juillet, on voit qu'on est toujours quand même dans un rythme de collecte relativement important. En général, en juillet, on est plutôt autour de 400 millions d'euros de collecte positive. Donc on voit que les Français restent inquiets, restent précautionneux. Ils n'ont pas encore puisé loin de là dans l'épargne constituée pendant le confinement. Ils continuent en fait à mettre de l'argent sur le livret A par crainte de la deuxième vague et surtout par peur du chômage, par une crainte d'une baisse des revenus qui pourrait intervenir en fin d'année. Donc on voit que les Français restent relativement anxieux malgré l'été, malgré les vacances.
Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne avec Élise Dangean.
Sophie Tussaud vous informe sur Europe 1.
Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, est toujours hospitalisé en réanimation en Sibérie. Mais son état de santé est à présent stable, ce qui signifie qu'il va pouvoir être transporté. Un avion d'une ONG allemande est venu le chercher. Les médecins qui affirment ne pas avoir retrouvé de traces de poison dans son sang ne s'opposent plus à son transfert, Pauline Jacquot.
Oui, il s'y était jusque-là opposé, mais finalement il rejoignent la version des médecins allemands. Alexei Navalny peut effectivement être transporté jusqu'à Berlin. Déclaration qui semble marquer un terme à un face-à-face à une opposition qui a duré plusieurs jours. Une opposition qui n'avait rien de médical, selon la spécialiste Anastasia Shaposhkina.
Il s'agit d'un combat politique. Les décisions sur le transfert de Navalny sera la décision politique, la décision du Kremlin. Tant que Navalny reste en Russie, il peut, on peut dire, maîtriser la situation. de couvrir sa propre responsabilité si jamais il y a des responsabilités ou maîtriser tout ce qui sort.
Le geste du Kremlin ce soir est donc un geste de bonne volonté, dit-elle, montrer à l'Europe que le Kremlin coopère. C'est peut-être aussi un moyen de blanchir sa réputation, dit-elle. À l'hôpital d'Omsk en Sibérie, les forces spéciales étaient un peu partout dans l'hôpital. Selon certains observateurs, le FSB et la police russe seraient présents. Ce ne sont pas les médecins qui ont l'air d'être aux commandes, nous dit-on. Des médecins qui ont déclaré ce matin qu'aucune trace de poison n'avait été trouvée dans l'organisme de Navalny. Déclaration mensongère, selon plusieurs spécialistes.
Pauline Jacquot, la Cour européenne des droits de l'homme demande ce soir à Moscou d'autoriser la famille et les médecins d'Alexeï Navalny à lui rendre visite pour s'assurer que son état de santé permet son transfert médicalisé en Allemagne. Trois jours après le coup d'État au Mali, des rassemblements dans la capitale, des milliers de partisans de l'opposition ont célébré dans les rues de Bamako le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'agent a également remercié le peuple pour son soutien. Retour en France. Il y a trop de suicides en prison. Déclaration du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui lance une mission d'inspection. Objectif, renforcer la prévention, mais également éclaircir les circonstances dans lesquelles un détenu des Baumettes s'est donné la mort au début du mois d'août. Un ancien enseignant en détention provisoire, depuis un mois, s'est pendu dans sa cellule.
Il avait 51 ans et il n'aurait pas dû mourir. J'ai demandé à ce qu'une inspection soit mise en œuvre pour faire toute la lumière sur cette affaire et pour que l'on sache si des dysfonctionnements sont à déplorer. J'attends de cette inspection qu'elle nous dise comment, du début à la fin, ces aspects particuliers qui tenaient à la personnalité de M. Viviani ont été ou non pris en considération. La mission que j'ai demandée n'a pas pour but de nous faire un énième rapport. C'est le dossier, si j'ose dire, Viviani, et c'est aussi la façon dont on appréhende le suicide de façon générale. Comment on met en œuvre tout ce qui existe déjà pour éviter ces situations dramatiques. Les chiffres sont mauvais. Nous en sommes cette année à 82 suicides en prison, 82 suicides de trop.
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, au micro Europe 1 de Marion Gauthier. C'était la reprise de la Ligue 1 ce soir avec de nouvelles règles sanitaires en raison de l'épidémie. Pas plus de 5000 personnes dans les stades, sauf dérogation. La première journée a déjà été modifiée en raison de cas de Covid au sein de l'équipe de l'OM. La rencontre Marseille-Saint-Etienne a été reportée à mi-septembre. Et c'est finalement Bordeaux-Nantes qui a ouvert le bal de cette saison, pas comme les autres. Et les deux équipes se sont quittées sur le score nul de 0 partout, Jean Berthelot.
Bordeaux et Nantes n'auront donc pas réussi à se départager 0-0 au terme d'une première rencontre de Ligue 1 bien terne. Le match a surtout été marqué par l'expulsion du jeune Mehdi Zerkan côté Girondin au bout de 20 minutes. Pour le reste, quelques rares occasions en première mi-temps, notamment un lob audacieux du milieu brésilien des Girondins, Otavio. En seconde période, seul le Nantais Thierry Vela a fait passer un frisson dans le stade où seules 5000 personnes avaient pu prendre place. Mais l'Espagnol a vu son tir croisé passer à quelques centimètres de la lucarne de Costil. Pas grand chose d'autre à signaler dans ce match où Bordeaux a surtout voulu être compact, en infériorité numérique. Début pas tout à fait manqué, mais pas vraiment réussi non plus pour Jean-Louis Gasset, le nouvel entraîneur des Marinés Blancs. Du côté de Nantes, on a manqué d'audace et on n'a pas vraiment profité du fait d'être à 11 contre 10. Résultat donc un 0-0 assez ennuyeux entre Bordeaux et Nantes et une ouverture de saison qui n'a pas vraiment fait rêver.
Jean Berthelot à Bordeaux pour Europe 1. Une rencontre dimanche prévue entre Nîmes et Brest est compromise. 4 cas de Covid ont été confirmés à Nîmes, 1 à Brest. Le match pourrait être reporté. Le coronavirus qui pèse également sur le Tour de France, les organisateurs préviennent. 2 cas positifs en 7 jours entraîneront l'exclusion de l'équipe concernée. La grande boucle doit s'élancer samedi prochain de Nice. Il va y avoir encore beaucoup de monde sur les routes ce week-end. Demain est classé rouge dans le sens des retours par bison futé, orange dans le sens des départs et rouge autour de l'arc méditerranéen. Et car même si août touche à sa fin, de plus en plus de personnes attendent ce moment pour partir en vacances. Et Caroline Baudry était avec quelques-uns de ces vacanciers de la dernière heure.
Je suis ravie, j'ai hâte.
Son bébé dans les bras, Lisbeth a hâte d'arriver près d'Alès où elle passe ses vacances. Après un été au travail, elle ne part que maintenant par précaution sanitaire.
Pour éviter les endroits où c'est très bondé. D'ailleurs, on ne va pas faire que la plage, loin de là, on va faire plutôt d'autres activités. Pas forcément en ville, près de la nature.
Même projet pour Antoine et Étienne, juste derrière, bâton de randonnée dans le sac. Ils partent entre amis tous les ans au début de l'été, mais cette fois, le rendez-vous a été décalé.
Nous allons parcourir les Pyrénées.
En fait, les refuges n'étaient pas tous organisés pour accueillir le monde avec les nouvelles règles sanitaires. Ils nous ont dit on n'est pas prêt, on n'ouvre pas, ou alors il n'y a pas suffisamment de place. On a promis de venir les voir et on vient les voir maintenant. On est très contents.
Les derniers départs avant la rentrée, comme pour Mathilde qui prend enfin des vacances pour aller voir sa famille.
Je l'ai fait sur un coup de tête en disant « vaut mieux profiter maintenant de sa famille, on ne peut pas savoir comment ça va se passer après. » Donc j'ai hâte de les revoir.
Profiter de cette liberté avant peut-être de nouvelles restrictions.
Caroline Baudrillon s'intéresse à présent au temps de demain.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin, partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
Et il va faire plus frais à Nice.
Oui, on va vraiment sentir la différence hein, demain, Sophie, avec cette perturbation qui touche cet après-midi la France entre la Gironde et la Bourgogne. Et bien cette perturbation, elle va se décaler demain matin avec de l'Auvergne à l'Alsace, un temps pluvieux en début de journée. Une perturbation qui, au fil des heures, va se décaler vers l'est pour quitter complètement la France. Alors à l'arrière, c'est un ciel de traîne qui se met en place avec sur l'Aquitaine, la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, quelques petites averses demain après-midi. Et puis sur la moitié nord, attention encore, le vent de sud-ouest va souffler sur toute la moitié du pays. En Corse et sur le littoral méditerranéen, bien là, c'est une très belle journée d'été. Hein. Demain, un soleil qui brille dans un ciel complètement dégagé et des températures toujours plus chaudes. Alors les températures, elles sont en baisse sur l'ensemble du pays demain avec 14 à 23 degrés. 14 à Nantes, 23 pour Ajaccio et 18 à Paris. Et puis dans l'après-midi, on va bien sentir la masse d'air frais qui arrive par l'ouest avec 21 à 29 degrés. 21 pour Cherbourg, 23 à La Rochelle, 25 à Clermont-Ferrand et Limoges, 26 à Paris, 29 à Lyon. Dans le sud, le thermomètre affiche toujours plus de 30 degrés. 32 à Perpignan, 33 à Marseille, 34 à Manosque et 35 à Nîmes.
C'est noté, merci Anissa.
Europe 1.
Restez sur Europe 1 dans un instant. Votre journal de la nuit continue avec le conseil de lecture de Stéphane Place et la bonne idée de François Claus. À tout de suite.
Europe 1. Sophie Tussaud.
Et c'est votre rendez-vous du soir, un livre pour l'été. Comme tous les soirs, Stéphane Place nous conseille un livre à lire en collaboration avec la librairie Mola à Bordeaux. Aujourd'hui, on s'intéresse à un ouvrage d'histoire. C'est une couleur qui est à l'honneur, la couleur du soleil, mais pas seulement, le jaune.
C'est une série qui a commencé il y a 20 ans sous la plume de l'historien Michel Pastoureau. Des ouvrages consacrés à l'histoire des couleurs, le bleu, livre paru en 2000, puis le noir, le vert, le rouge et aujourd'hui le jaune, couleur liée par exemple à la poste en France, mais dont on s'aperçoit qu'elle n'est pas très présente dans notre quotidien. Et ce nouvel ouvrage explique les raisons de ce recul, de ce déclin. Jaune, histoire d'une couleur, le coup de cœur de David Pigeret, libraire chez Mola.
Effectivement, spontanément, on pourrait penser que évidemment, le jaune, c'est le soleil, la joie. Oui et non. Le problème du jaune, en fait, c'est qu'il a été concurrencé par l'or. Tous les aspects positifs du jaune ont été vraiment vampirisés par l'or, en fait. L'idée de puissance, de gloire, de soleil, de chaleur, en fait. Et le pauvre jaune, lui, il s'est contenté des aspects négatifs. L'automne, les feuilles mortes, la tristesse, l'urine. Enfin, voilà les choses un peu tristes du jaune. C'est très, très, très facile à lire. C'est très agréable à lire. On se pose des questions, on se dit mais pourquoi dans la vie quotidienne telle couleur je la porte pas? Tous les livres sur les couleurs, en fait, tout d'un coup on se dit bien tiens, mais pourquoi telle couleur? Le vert à utiliser pour l'écologie, pourquoi le bleu, l'Europe? Ça permet de voir la vie de tous les jours, le feu vert, le feu rouge, de comprendre plein de choses en fait.
Et le jaune n'a pas toujours été cette couleur mal aimée dans l'histoire des hommes, elle a même au départ occupé une place prépondérante, rappelle l'auteur Michel Pastoureau.
Dès le paléolithique, dans les grottes, sur les murs, on voit beaucoup de jaune. Le matériau utilisé se trouve à l'intérieur même de la grotte. Des terres argileuses riches en hydroxyde de fer, c'est de l'ocre jaune. Le décrochement, au fond, le caractère péjoratif du jaune se met bien en place au 14e et 15e siècle, avec différentes idées. D'abord, le vieillissement, la maladie, la pourriture. Pensez à un verbe comme jaunir, c'est pas un verbe valorisant. C'est vieillir, c'est se salir, c'est évoluer vers quelque chose de dégradé. Donc le jaune devient partiellement la couleur de la maladie, ça va se dégrader plus encore. On va passer de la maladie et du vieillissement vers la folie, vers un certain nombre de vices. D'abord l'envie. Les sept péchés capitaux ont leur couleur. Et le jaune est la couleur de l'envie, de la jalousie, parfois de la colère. Et puis surtout, à partir du 15e siècle, de l'hypocrisie, du mensonge et enfin de la trahison.
Michel Pastoureau, lui, tient une nouvelle fois sa promesse, nous embarquer grâce à ce beau livre richement documenté dans ce périple à travers les siècles pour mieux comprendre l'histoire d'une couleur et ce qu'elle dit finalement de nous.
Merci Stéphane Place. Autre rendez-vous de la soirée, la bonne idée. Ce soir, François Claus voulait saluer l'initiative de Nathalie Blanc, créatrice de lunettes.
Bonsoir Nathalie Blanc.
Bonsoir.
Merci d'être sur Europe 1 ce soir. On voulait effectivement vous adresser notre coup de chapeau et nos félicitations. C'est notre belle idée que nous avons retenue. Vous proposez, vous qui êtes créatrice de lunettes, en travaillant avec le SAMU social et les Restos du Cœur notamment, d'apporter d'abord des soins oculaires, mais aussi des paires de lunettes à ceux qui en manquent peut-être le plus. Ceux, vous dites, qu'on ne voit pas, nous, avec nos lunettes, les SDF notamment.
Exactement. Alors, je ne suis pas seule à l'initiative de ce projet, puisque c'est Éric Jean, un créateur aussi de lunettes, qui a créé l'initiative, avec tout un collectif de créateurs français d'usines. C'est vrai que la période du Covid a été, on le sait tous, très très dure pour les sans-abri et les gens qui n'avaient pas de couverture sociale, et les plus démunis. Donc, on a décidé de lancer une opération avec un bus qui s'appelle le bus des invisibles, où nous équipons tous les plus démunis, ceux qui n'ont pas de couverture sociale, ça représente 5% de la population quand même, qui n'ont
combien
pas accès
on a
à la
mal entendu,
de...
On a mal entendu le chiffre.
5%.
5%, il faut le rappeler, oui.
Voilà. Et c'est des gens qui n'ont pas accès à la loi 100% santé, donc c'est des gens qui n'ont pas le droit de voir. Alors on a décidé de les équiper avec des lunettes haut de gamme, pas des produits qui viennent de Chine, des lunettes faites dans des usines en France. Avec des verres d'un grand verrier qui s'appelle Zeiss, et c'est des gens qui repartent avec des équipements de haut niveau et auxquels ils n'auraient jamais pu avoir accès. Mais ça a été un projet qui nous a paru évident dans cette période tellement compliquée pour eux, pour tout le monde, mais spécialement pour eux. Donc on a tous été soutenus par le recueil social de la RATP, le SAMU, la mairie de Paris, et le bus se promène dans Paris en ce moment, il est place de la République. Tous les rendez-vous sont complets, pour l'instant, évidemment. Mais enfin, c'est un projet magnifique. Et aujourd'hui, on a déjà équipé 1000 sans domicile fixe. Voilà.
Avec des lunettes totalement made in France, fabriquées dans le Jura, comme vous le disiez. Il nous faudrait des bus comme
exactement.
Ça, quasiment dans toutes les grandes villes de France. Voilà pourquoi nous voulions ce soir saluer, bravo Nathalie Blanc, votre initiative et ce bus des invisibles. Nous étions hier avec l'application, on s'en souvient, Entourage, qui permettait également de créer un réseau pour les gens qui n'en ont plus. Et on a vu comment cette crise du Covid a douloureusement exacerbé les fractures sociales et fait souffrir encore plus ceux qui souffraient déjà. Et c'est pour ça que votre initiative ce soir méritait notre salut sur Europe 1. À bientôt, Nathalie Blanc.
Merci beaucoup. Et le bus change de ville. Hein.
Il part où ?
Il va aller à Lyon. Lyon, prochaine étape, Lyon. Donc voilà.
Voilà, parfait. Et ensuite, il ira dans d'autres villes également.
Voilà,
donc,
exactement. Il fait le tour de la France.
Eh bien, doublement bravo. Merci, Nathalie Blanc.
Voilà. Merci beaucoup.
C'était la bonne idée avec François Claus. Dans quelques instants, les unes de la presse de demain. Mais avant, on écoute Zoé Wyss, Contrôle.
Sophie Tussaud sur Europe 1.
Tous les soirs, 7 jours sur 7, Europe 1 est à votre écoute et ouvre sa libre antenne.
Merci à ceux qui ont écrit pour intervenir, ça me fait chaud au cœur.
Vous aussi, venez vous confier à Sana Blanger en appelant le 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel.
Je ne pouvais pas garder toutes ces choses pour moi. Et voilà, ce soir, je vous ai appelé.
Vous avez à certains moments éclairé ma vie.
La libre antenne de Sana Blanger, c'est ce soir dès 22h30 sur Europe 1.
À la une de vos journaux demain, un visage en une du Parisien, celui d'Estelle Mouzin, le terrible épilogue. Les accusations de Monique Olivier, son ex-compagne, et de la présence de l'ADN de la fillette dans une maison de Michel Fourniret accrédite la thèse d'un crime imputable au tueur en série. Le Parisien qui pose également 10 questions sur un rebond de l'épidémie, alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, alerte sur la forte circulation du Covid. 4 spécialistes décryptent la situation sanitaire en France. Le Figaro s'intéresse aux acteurs de la culture qui veulent tourner la page du coronavirus. L'exécutif doit annoncer la semaine prochaine des mesures pour soutenir le monde du spectacle. Covid-19, trop de cas en Sarthe, titre Le Maine. Face à la circulation active du virus, la préfecture a décidé d'appliquer de nouvelles mesures dans le département. La guerre des prix est de retour pour le Dauphiné. Le Covid rallume la guerre des étiquettes. Alors que le pouvoir d'achat est mis sous tension par la crise sanitaire, la grande distribution passe à l'offensive. Hyper et supermarché relancent la concurrence en adoptant une politique agressive sur les prix. C'est à lire en page 27. L'horizon bouché du secteur aérien, titré par le Télégramme. Le tourisme à l'arrêt, effet de la récession. Télétravail qui réduit les déplacements, contraintes environnementales et puis le rebond de la pandémie. Le secteur aérien parviendra-t-il à redécoller ? Pour le savoir, il faut lire le Télégramme. Ouest France, titre sur du cyclisme. Le vélo se relance à l'Ouest. Championnat de France en ce moment. À Locminé, le Morbihan accueille l'élite du cyclisme sur route et fête le grand retour du vélo à une semaine du départ de la Grande Boucle. Libé, de son côté, anticipe sur la finale de Ligue de dimanche, une finale de football, bien sûr, on parle de Ligue des Champions. Et à la fin, c'est Paris qui gagne, point d'interrogation. Le PSG tient enfin sa première finale européenne et affronte dimanche soir le redoutable Bayern Munich dans une édition qui sera bien sûr bouleversée par le Covid. Vous êtes sur Europe 1 dans une poignée de secondes, 22h30, et c'est votre rendez-vous avec la Libre Antenne. Et vous êtes avec Sana Blanger ce soir. Bonsoir Sana.
Bonsoir Sophie.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Ça va très bien. On se retrouve dans une petite demi-heure ?
Absolument.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.